C'est un héritage spirituel immense que laisse derrière lui Olivier Clément. Des ouvrages d'abord par dizaines, consacrés à l'histoire, à la pensée et à la vie de l'Église orthodoxe, ainsi qu'à la rencontre de l'orthodoxie, du christianisme occidental, des religions non chrétiennes et de la modernité. Le père Nicolas Loski est professeur émérite à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Il était un ami proche d'Olivier Clément.
C'est, à mon avis, l'un des plus grands, sinon le plus grand théologien orthodoxe de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe. Sa théologie était une théologie qui prenait très sérieusement en compte le contexte de la société dans laquelle nous vivons. Il a remis en vie, à la suite de ces deux maîtres à penser, si je puis dire, c'est-à-dire Paul Evdokimov et Vladimir Loski, la théologie patristique. C'est le fait d'être aujourd'hui ce que les pères ont été en leur temps, c'est-à-dire ils parlaient à son temps.
Théologien dont l'envergure était saluée à travers le monde, Olivier Clément aura aussi marqué les esprits par son sens pédagogique, lui qui fut avant tout professeur et qui cultiva sans relâche le goût de transmettre. L'une de ses biographies est d'ailleurs intitulée « Olivier Clément, un passeur », le père Nicolas Loski.
Quand il était professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, il recevait les étudiants chez lui. Il avait toujours un nombre très important d'auditeurs libres qui venaient. Ils n'étaient pas tous des orthodoxes. Il y avait des catholiques, il y avait des protestants, des incroyants, des gens qui se posaient des questions, mais qui venaient l'écouter parce que vraiment, il avait un don extraordinaire de communication.
L'attachement à l'unité de son Église et le dialogue avec les catholiques a toujours été une constante dans la pensée du théologien. En 1996, voilà ce qu'Olivier Clément confiait à notre micro.
Qui représente l'orthodoxie? C'est un immense problème, n'est-ce pas? Qui peut dire une parole au nom de l'orthodoxie? Est-ce que c'est Constantinople? Est-ce que c'est Moscou? Donc nous sommes en présence d'un immense problème. Alors je pense qu'il y a des personnes dans l'orthodoxie qui vivent ce dialogue, qui le vivent très profondément, mais on aimerait que ce dialogue puisse être en quelque sorte porté par une autorité qui parle au nom de l'orthodoxie. Oh, cette autorité n'existe pas dans cette situation.
Alors, vous avez rencontré le pape pendant votre séjour à Rome. Qu'est-ce qui vous semble le plus urgent à l'heure actuelle pour la poursuite du dialogue?
Je crois qu'il faudrait que les orthodoxes répondent. C'est ça qui me paraît important à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Pour parler, il faut être deux. Alors, c'est très bien de faire des gestes d'ouverture, de dire des choses prodigieusement intéressantes et importantes, mais il faut que ce soit entendu par l'autre. Alors, est-ce que le moment est venu? Je me demande si, historiquement, ce n'est pas un peu tôt. Il faut probablement attendre que l'homme se soit reconstitué dans les pays communistes où il a été écrasé, qu'une pensée orthodoxe vivante se reconstitue dans ces pays. Et pour l'instant, le dialogue ne peut se faire qu'avec des individus. Et puis, je crois que la personnalité de Jean-Paul II est une personnalité charismatique, une personnalité extrêmement importante. Et j'ai eu une idée, et c'est peut-être pas discret de vous le dire, parce que je lui ai écrit après l'avoir quitté. L'idée m'est venue après, c'est toujours comme ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'escalier. Mais je me suis rappelé cette formule d'André Malraux, qui disait « Maintenant je vais mourir, mais va-t'en une chose, c'est qu'un prophète ose se dresser pour dire au monde « Il n'y a pas de néant ». Et il m'a semblé que c'est Jean-Paul II qui devrait être ce prophète.
Un hommage qui résume l'esprit de ce rassembleur. Personnalité charismatique et poète, témoin du Christ surtout, bien au-delà d'un monde orthodoxe qu'il aura contribué à mieux faire comprendre au monde.